Hello les auditeurs et auditrices de la Maison du Chemin Rouge, c'est Rémi, votre animateur du jour, qui vous accompagnera tout au long de ce podcast. Nous sommes le samedi 1er avril sur l'événement Le Chemin Rouge se met au vert. Nous profitons de cet événement pour vous proposer aujourd'hui notre podcast thématique basé sur le développement durable après celui de l'insertion professionnelle réalisé en février. Le développement durable, c'est aujourd'hui une thématique qui est incontournable et nous allons vous faire découvrir de nombreuses personnes et actions. Car oui, sur Fâche-Tumil et ses alentours, beaucoup de personnes s'investissent afin de changer les choses, que ce soit dans le mode de consommation, la mobilité ou encore les habitudes du quotidien. Sur ce podcast, vous allez pouvoir donc entendre différents acteurs et habitants qui s'investissent dans différents projets. Donc pour commencer, nous sommes avec Yvelise. Donc est-ce que vous pouvez présenter l'action Coscouzette, ce que vous faites aussi aujourd'hui sur cet événement?
Coscouzette, bien sûr, c'est la couture. On parle aussi, mais c'est surtout la couture, le tricot, le crochet. Et c'est 100% zéro déchet, avec plein de choses. Comme il a été fait des hiboux, on a coupé après des restes de tissu pour garnir les hiboux. Puis c'est comme ça pour beaucoup de choses, quoi. De la laine, on a essayé avec telle chose de faire, un foulard, un cache-nez. Donc on essaye de faire avec ce qu'on a pour faire des belles choses et zéro déchet.
Plein de choses différentes.
Voilà.
Et du coup, comment vous avez soit rejoint l'action Coscouzette ou l'idée de réaliser ce projet? Comment ça vous a donné envie?
C'est parce que j'aime bien coudre. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens. Et puis, je me suis intéressée à savoir. Et puis, on m'a dit là. Et puis, j'aime bien la façon, de créer des choses. Et ça permet aussi d'avoir des idées.
Et est-ce que vous pouvez, du coup, expliquer rapidement, c'est un peu ce que vous avez fait, mais expliquer rapidement l'impact de l'action Coscouzette, par exemple, sur le développement durable, qu'est-ce que vous cherchez à partager aussi sur cette thématique?
De partager, des idées, des conseils, et puis après, de créer des choses, et de vendre nos affaires pour après avoir d'autres choses pour refaire.
Et comment on peut vous contacter ou vous rejoindre? Ou est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part?
Comme on m'a dit il n'y a pas longtemps, tu vas bientôt mettre ton lit ici, parce qu'il paraît que je suis souvent ici, mais sans quoi j'ai un numéro de portable, j'habite là, sur Fâche.
Et pour rejoindre Coscouzette?
Coscouzette, c'est le samedi après-midi, et ça c'est sacré, donc c'est ici au sous-sol. D'accord. Vous venez à partir de 15h, j'y suis.
Ok. Ouais. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup.
De rien.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Pour continuer, nous sommes avec Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour Rémi.
Alors, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais aujourd'hui sur l'événement?
Alors aujourd'hui, sur l'événement au Chemin Rouge, je suis sur la pollution numérique. Donc j'ai plusieurs ateliers qui sont mis en place. J'ai deux petits jeux, jeux de cette famille autour du numérique. J'ai des petits quiz autour de la pollution numérique adaptés aux enfants et aux adultes, et j'ai une petite exposition qui est mise en place avec des petites affiches pour sensibiliser les gens autour de la pollution et de ce qu'il faut faire avec ces appareils pour limiter la consommation.
Alors comment t'as eu l'idée de réaliser ce projet?
Ce projet était mis en place pour la semaine du développement durable qui a lieu au centre du centre social Chemin Rouge. Et j'ai utilisé à peu près les outils qui étaient un peu à ma disposition. J'ai utilisé des connaissances aussi personnelles pour réaliser des quiz. Je me suis servi de différentes ressources qui sont sur Internet pour sensibiliser les gens.
Et est-ce que tu peux expliquer rapidement l'impact de ton action, ce que tu cherches à partager?
L'impact que ça a, c'est sensibiliser les gens sur la consommation électrique que ça peut avoir sur certains appareils, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces appareils, qu'il vaut mieux recycler son appareil qu'au lieu d'en acheter un nouveau, essayer de le faire durer le plus longtemps possible, Et notamment, bah, par exemple, même si quelque chose est cassé sur un appareil, qu'on peut toujours trouver peut-être un moyen détourné de quand même l'utiliser, bah, et de le faire durer dans le temps, bah, malgré que c'est un défaut, bah, qui arrive avec, bah, un appareil.
Et est-ce qu'on peut retrouver ces informations quelque part, tout sur ce qu'est la pollution numérique
Bah, du coup,
ou...
la pollution numérique, vous pouvez, bah, en faisant quelques petites recherches sur Internet, bah, pollution numérique, ou notamment avec, si vous vous renseignez un peu sur la journée, du coup, le Cyber World Cleanup Day, du coup, qui est, du coup, une journée, bah, pour la pollution numérique. Voilà.
Et comme
Donc,
ça, tu as quelques chiffres ou quelques données sur la
quelques données,
pollution
bah,
aujourd'hui?
du coup, par exemple, si on s'attend plus de 30 minutes, voire 1 heure, vaut mieux mettre son appareil en veille. Et bon, c'est juste quelques minutes, bon, du coup, éteignez les écrans. Vaut mieux, du coup, faut aussi, du coup, éviter de laisser sa box allumée tout le temps, parce que ça consomme à peu près les consommations d'un frigo par an. Donc, faut, du coup, à débrancher, si on s'en va longtemps. Vous avez aussi, le numérique, ça consomme aussi, par exemple, ça consomme plus que l'aviation, du coup, avec tout ce qui est, les infrastructures numérique, donc avec des serveurs, les PC, etc. En total, ça consomme plus que l'aviation, donc ça ne paraît pas, parce que tout est un peu caché au public. Mais voilà.
Ok, bah merci Quentin.
De rien, Rémi.
Et nous revoilà maintenant avec Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux présenter bah, ce que tu fais aujourd'hui sur l'événement, ton action que tu fais ici au Chemin Rouge?
Alors en fait, l'action consiste à créer un four à bois pour réaliser du pain. Et ce four à bois, on va le réaliser à partir de matériaux de récupération, et uniquement à partir de terre, de sable, de paille, et donc de bois, pour pouvoir justement créer un ou des fours à bois qui peuvent être utilisés soit ici. Soit on va les rendre mobiles également pour pouvoir se déplacer sur des événements ou les partager avec d'autres personnes.
Ok. Et comment est venue l'idée de réaliser ce projet?
Alors l'idée de ce projet est arrivée parce que bon, moi je viens de prendre ma retraite et j'ai travaillé pendant très longtemps dans le social. Mon dernier boulot d'ailleurs, c'était directeur d'un centre social sur Saint-Denis. Et on travaillait notamment avec les personnes qui vivaient à l'hôtel et qui ne pouvaient pas cuisiner chez elles. Donc on a beaucoup travaillé les modes de cuisson alternatifs, qui n'utilisent pas ni l'électricité, ni le gaz. Et de plus, j'avais une passion depuis très longtemps de faire du pain. Donc en travaillant des modes alternatifs de cuisson, et en travaillant à partir de ma passion pour le pain, il y a eu deux choses qui me sont apparues. C'est que juste avant de partir à la retraite, j'avais encore un crédit dans le cadre de mon CPF. Donc pour la formation professionnelle des salariés qui me permettait de suivre une formation. Donc plutôt que de laisser ça, puisque à partir du moment où on prend sa retraite, on ne peut plus toucher le CPF, plutôt que de le laisser, je me suis pris une formation de CAP de boulanger. Donc là, je suis en cours de formation de CAP de boulanger, et ce qui me permet de monter en qualité sur la production de boulangerie et de justement travailler sur cette histoire de four à pain. S'il y a un four à pain, autant l'utiliser. Donc, autant apprendre à des voisins à faire du pain. Et à partir de là également, de réinvestir dans ce projet-là toutes les connaissances que j'ai pu développer autour des modes de cuisson alternatives, à savoir qu'on peut utiliser une marmite norvégienne. Le four à pain va monter en température, va descendre en température. Et ça permet justement d'avoir, je dirais, des moments de cuisson très différents. On peut cuire de la pizza, on peut terminer par le fait de sécher des légumes, des fruits dans un four à pain. Tout ça pour qu'on puisse justement à la fois se retrouver convivialement autour de ce four à pain et qu'on puisse également à un moment donné réfléchir sur qu'est-ce qu'on a comme alternative autour de nos cuissons de plats. Est-ce qu'on a toujours obligation d'utiliser de l'électricité, du gaz? Et donc de favoriser également, enfin moi je pense par rapport au public qui fréquente les Restos du Cœur, comment on pourrait permettre également de travailler des cuissons ici sur place, leur permettre d'emmener le plat pas tout à fait cuit dans une marmite norvégienne, et puis de finir la cuisson chez eux sans ajout de cuisson à l'électricité ou au gaz. Hein, tout simplement, c'est les petits systèmes qui nous permettent de travailler ça. Donc voilà un peu le projet. Moi, je n'avais pas envie de le créer seul. Donc, c'est pour ça que je me suis dit également, ben, ça peut être bien de se rapprocher d'une structure de quartier, structure de proximité, d'autant plus que je connaissais bien tout ça.
Oui, ça permet de transmettre des compétences.
C'est ça. Oui. C'est vraiment dans un échange de compétences et dans une action d'éducation populaire, je pense qu'on peut créer des dynamiques comme celle-là, en tout cas.
Mais du coup, c'est un peu ce que tu cherches à partager avec les personnes, ça, la connaissance.
Oui. Et bon, on a créé, par exemple, une première rencontre il y a 2 semaines autour de ce projet. Il y avait 10 habitants qui étaient là. Et de fait, ce qui était passionnant, c'est que les uns et les autres, on avait des compétences qui venaient se compléter. Et donc, c'est dans cet échange de compétences, de connaissances, de savoir-faire, et en même temps de pouvoir se réassurer dans nos compétences, dans nos connaissances, en fait, que tout ce projet a été également conçu.
Et comment on peut rejoindre ce projet, par exemple, si quelqu'un est intéressé par rapport à la cuisson du pain ou le four à pain?
Oui. Alors, pour l'instant, donc, aujourd'hui, je tiens un stand en bas, mais on a créé également un groupe WhatsApp pour qu'on puisse justement agréger les personnes qui sont intéressées. Et moi, ce que j'aime bien dans des projets comme cela, c'est un peu une diffusion en tache d'huile. Ça veut dire que concrètement, ben, un habitant peut mobiliser 5 habitants autour de lui, et ça peut être justement une modalité de se mettre en route les uns avec les autres. Voilà, après, pour la construction du four, il ne faut pas être non plus 40, ça c'est clair, mais par contre, sur l'utilisation du four, sur le fait de boulanger ensemble, sur le fait de trouver des recettes ensemble, etc., là on peut par contre être assez nombreux. Et au contraire, c'est un projet qui vise à pouvoir se développer, à la fois ici sur le centre, mais bon, je connais bien les centres sociaux du coin également, et ces centres sociaux peuvent travailler ensemble et, bien entendu, se prêter le ou les fours qu'on pourra construire à ce moment-là sur des événements qui constituent. Et le mettre à disposition d'habitants, enfin, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui doit pouvoir être très pratique.
C'est un projet qui peut rassembler, au final.
Oui. C'est vraiment une histoire de convivialité, vraiment de se mettre ensemble pour faire un projet très concret. Je trouve que le pain, c'est passionnant de ce point de vue-là. Et pendant toute ma carrière professionnelle, j'avais plutôt une carrière professionnelle de rendre possible à des salariés de travailler ensemble. Là, j'avais envie justement de mettre la main à la pâte. Donc la pâte à pain, ça va très bien là-dedans.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Marc.
De rien.
Nous revoilà maintenant à présent avec Grégoire. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux présenter l'association aujourd'hui qui est présente sur l'événement?
Oui, alors du coup, en fait, c'est pas une association, c'est un programme qui est porté par une association en partenariat avec l'école centrale Lille et la ville de Fâche-Thumesnil, qui vise en fait à s'attaquer au sujet de l'adaptation de l'habitat aux conséquences du dérèglement climatique, et là en particulier sur le sujet de l'intensification des canicules, qui est du coup une des conséquences du dérèglement climatique, qui vulnérabilise en fait l'habitat, notamment urbain, dans les milieux urbains denses, comme on a ici sur la métropole de Lille. Et en fait, notre approche, c'est de concevoir avec les habitants les solutions appropriées au sujet. Donc du coup, ça veut dire à la fois d'imaginer des techniques sobres en énergie et en matériaux, et qui sont aussi accessibles techniquement et financièrement pour pouvoir en fait pouvoir répondre à cette problématique dans l'ensemble des contextes d'habitat qui peuvent exister sur la métropole. Pour des ménages aussi qui n'ont pas forcément les revenus suffisants pour pouvoir faire des gros travaux chez eux. Mais il y a aussi la question des usages, en fait, donc de bien comprendre en fait son logement, ses vulnérabilités par rapport au dérèglement climatique, et de voir en fait comment est-ce que ces usages à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif, pour les usages de certains peuvent aussi avoir des conséquences sur les habitats d'autres. Donc du coup, de revoir aussi un peu plus à l'échelle collective les usages pour pouvoir adapter en fait le cadre de vie au dérèglement, enfin au sujet des canicules, quoi, qui sont de plus en plus prégnantes. Ici en France de façon générale.
Et le nom du coup,
Alors c'est le programme CASBA, ouais. Pour cadre d'action sur le bâti et... Non, pardon, excuse-moi. Cadre d'action sur le bâti pour adapter notre habitat.
Ok.
Voilà.
Et c'est en partenariat avec...
Du coup en partenariat avec Centrale Lille, donc c'est porté par l'association WeShare.
Ok.
Et en partenariat avec Centrale Lille et la ville de Fâche-Thumesnil. Donc voilà, on expérimente le programme en ce moment à Fèche-Humenil pour voir en fait, savoir en fait quelles sont du coup ces solutions qu'on souhaite mettre dans le programme, qu'on souhaite mettre en avant, et aussi quels sont en fait les formats de rencontres, d'échanges avec les habitants, pour pouvoir ensuite essayer de s'adresser à dans d'autres parties de la métropole de Lille.
Ok. Et comment tu as eu l'idée de faire ce projet ou qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser ce projet?
Alors, l'idée du projet, elle est venue quand j'étais étudiant à Paris et puis quand j'ai commencé ma vie active à Paris. Je vivais dans une petite chambre de bonne au 6e étage et en fait, j'ai enchaîné plusieurs étés très difficiles dedans et je me rendais compte, en fait, c'était vraiment difficile à vivre ces situations. Et je trouvais qu'il y avait, j'ai essayé de mobiliser un petit peu mes voisins sur ce sujet parce que je me rendais compte qu'il y avait quand même des choses assez simples à mettre en œuvre dans le niveau du bâtiment, qui n'étaient pas forcément des choses pas forcément des travaux de gros œuvres ou même de seconde œuvre. C'était même plus des questions d'usage, donc des questions de ventilation par exemple, à mettre en place, donc pour que je souffre moins de la chaleur l'été. Et en fait, j'avais bien compris que c'était aussi quelque chose qui était lié au dérèglement climatique, parce que j'avais vu que voilà, on avait en 2050 une multiplication par deux des périodes de canicule, avec une intensification et aussi le fait qu'elle soit plus tôt et plus tard dans l'année. Donc voilà, donc c'est quand même un sujet qui pose vraiment problème. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet à ce moment-là pour l'avoir vécu. Et je continue de le vivre moi aussi en ayant déménagé du coup dans le nord à Lille, parce que j'habite au dernier étage et voilà, rebelote.
Pareil.
Ouais, donc c'est difficile en fait, et quand on n'a pas forcément les moyens de, en fait quand on n'a pas d'autres moyens que de rester chez soi l'été, c'est difficile à vivre en fait. Donc je me dis que voilà, c'est comme ça que l'envie en tout cas de travailler dessus est venue. Après, plus particulièrement avec la posture qu'on a sur Casbah, en fait c'est toute la démarche, ce qu'on appelle la démarche low-tech, pour basse technologie, mais c'est pas forcément une très bonne traduction du terme, mais en fait qui vise du coup à revoir ses rapports à la technique aujourd'hui, parce qu'on est quand même, on rentre dans un monde sous contrainte, et notamment contrainte d'énergie, contrainte de matériaux. Donc du coup, comment penser en fait des solutions qui soient vraiment durables et accessibles sur ce sujet-là.
Ok. Et est-ce que tu pourrais du coup expliquer rapidement du coup, l'impact de l'action pour les gens que tu peux rencontrer et ce que tu cherches à partager avec eux?
Je pense que le premier impact qu'on a, c'est quand même d'amener les personnes à conscientiser ce sujet-là. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est pas forcément de lien entre l'inconfort thermique et le sujet du dérèglement climatique l'été. Et donc, du coup, ça leur permet quand même de mieux comprendre le sujet et du coup d'être aussi d'anticiper certaines choses, de s'intéresser un peu plus aussi à leur rapport à eux dans leur habitat. Donc c'est quand même c'est quelque chose qui est on essaie de créer un autre rapport à l'habitat, et aussi on essaye aussi de, je pense que un des impacts, c'est le fait de pouvoir donner cette capacité à agir à ces personnes-là, de dire que voilà, elles sont pas spécialement démunies, qu'elles savent faire des choses, qu'elles peuvent aussi les faire de façon en collectif avec d'autres personnes qui vivent les mêmes situations. Voilà, donc il y a aussi cet impact un peu plus social, voire psychosocial, de se dire voilà, on n'est pas forcément seul et on a cette capacité à agir. Donc il y a une reprise de confiance dans l'approche qu'on cultive. Et puis en fait, évidemment, le dernier impact, c'est gagner en confort en fait, gagner en confort et en autonomie vis-à-vis de ces périodes, des conséquences du dérèglement climatique.
Ça permet de rassembler les gens aussi au final, les voisins, etc., ou le quartier, sur cette thématique.
Essayer de faire ça avec une approche où on parle souvent de convivialité.
Ouais.
Et convivialité, c'est aussi un terme qui est intéressant parce que ça fait écho à un auteur qui est quand même souvent cité quand on parle de démarche low-tech, qui est Ivan Illich, qui a écrit La convivialité, qui est vraiment un essai vraiment qui est très fort sur ce sujet de quel rapport on peut interroger vis-à-vis de notre société à la technique pour faire en sorte qu'en fait on ne se subisse pas les éléments techniques que nous on développe en tant qu'humain avec notre intelligence, mais justement qu'on essaye de prendre en compte justement les enjeux plutôt sociaux et sociétaux dans les techniques qu'on choisit à l'avenir, et en tout cas pour pouvoir satisfaire nos besoins, etc. quoi. Donc il y a la convivialité, du coup, elle a à la fois une résonance technique, mais elle aussi, en fait, elle a clairement une résonance sociale, quoi, de mise en lien, d'entraide, etc. quoi.
Ok. Ben, merci à toi, Grégoire, et à bientôt.
Merci.
Alors, nous sommes de retour avec cette fois-ci le Ripper Café. Donc, bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez du coup présenter l'action aujourd'hui sur le centre social ?
Alors aujourd'hui sur le centre social, le Ripper Café, il est venu pour accompagner la semaine du développement durable du Chemin Rouge. Mais le Ripper Café, il se tient aussi tous les mois à Sollacité. Et on donne l'occasion aux gens de venir aider à réparer leur matériel grâce à une équipe de bénévoles bien compétents.
Et comment vous avez eu l'idée, par exemple, vous, de rejoindre ce projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ?
Bah, à la base, avec Céline, on fait partie de Ensemble pour le climat Fâche-Tuménil, donc il y a déjà plusieurs années. Et on avait plusieurs idées de projets ont émergé, surtout suite à la venue de la nouvelle municipalité du service urgence écologique. Et du coup, l'idée du Ripper Café est arrivée assez rapidement. Et on a commencé à y penser sérieusement en 2021.
Il y a 2 ans.
Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Et en fait, c'est assez simple à mettre en place un Ripper Café. On a été tout de suite soutenus par la collectivité. Donc voilà, la mairie nous a donc fourni tout l'outillage. Et ensuite, on était un petit noyau de 6-7 bénévoles au départ. Et maintenant, on est à plus de 15 bénévoles. Donc une grosse équipe de bénévoles réparateurs avec des compétences différentes. Et, et voilà, et ça se passe super bien.
En général, il y a toujours une bonne ambiance. On a justement deux réparateurs qui sont arrivés le mois dernier, supplémentaires.
Et c'est ça.
Il y a du sang neuf en plus qui arrive.
Tout voilà, à fait, c'est agréable.
À chaque repair, on peut dire, il y a toujours des personnes intéressées pour participer. Donc,
Vous êtes combien là, par exemple, dans l'équipe ? Enfin, en tant que bénévole.
Là, aujourd'hui ou...
Bah, aujourd'hui ou en général.
Bah, j'ai pas fait le total, mais je pense que oui, on est plus d'une quinzaine là.
Après, ça tourne selon les ateliers, selon les disponibilités de chacun.
Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement l'impact de l'action du Ripper Café et qu'est-ce que vous cherchez à partager ?
En fait, il y a deux volets à l'action. Déjà, la première, c'est d'essayer d'éviter des déchets, donc éviter que les gens jettent, prennent le réflexe de jeter quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, j'allais leur dire, essayez de réparer, allez dans la démarche d'essayer. Et puis, donc, si les objets sont réparés, très bien, ça évite de les jeter. Si ils ne sont pas réparables, on essaye de leur indiquer comment les jeter de manière à ce que ça puisse être recyclé. Donc, il y a tout ce volet sur les objets déjà qui nous sont amenés. Et ensuite, c'est toute la sensibilisation à la réparation, au fait que d'éviter cette systématisation de jeter systématiquement les affaires qui ne fonctionnent plus.
Ok. Et comment on peut, par exemple, vous contacter ou vous rejoindre, si quelqu'un désire rejoindre le Ripper Café, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Comment il peut vous contacter ?
Alors, on a créé depuis peu notre messagerie. Donc, c'est tout attaché Ripper Café Fâche-Tuménil @gmail.com, c'est ça. Après, on peut nous contacter via le site de la mairie où, en fait, pour chaque Ripper Café, on peut se préinscrire en indiquant quel type d'objet on souhaite amener, si on a une idée un petit peu de la panne. Ça, c'est pour nous, pour qu'on puisse un petit peu mieux s'organiser.
Et après, le plus simple aussi, c'est de venir lors d'un Ripper Café. Une fois que les dates sont sur le site de la mairie, on peut revenir et puis après, ensuite, on prend... Ça permet de voir tout de suite l'ambiance qu'il y a et puis c'est plus convivial aussi de voir directement les personnes.
Puis si possible de venir en début d'atelier parce que c'est vrai que parfois ça prend du temps.
Dès l'ouverture.
Mais donc on est présent tous les deuxièmes samedis du mois de 14h à 17h. Donc à Sollacité
la plupart du temps.
Voilà. Et sauf exceptionnellement aujourd'hui.
Ici. Bon, le message est passé. Merci à vous.
Merci.
Et nous revoilà maintenant avec Eric. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux présenter ce que tu fais aujourd'hui sur cet événement ?
Oui, avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour la semaine du développement durable donc au centre social du Chemin Rouge. Ça c'est dit, c'est fait. Nous sommes envoyés par le service urgence écologique de la ville de Fâche. Nous sommes trois stagiaires. Ils ne seront pas là pour en discuter, mais je les représente quand même parce que c'est important. Nous sommes une équipe. Et on présente aujourd'hui les aromatiques que nous avons plantées dans la spirale du jardin du centre. Cette spirale, je peux en parler pendant des heures, mais elle est finalement très technique. L'exposition, elle était bien réfléchie par rapport à l'orientation du soleil. Les pierres sont de récupération du voisinage. On a fait un substrat très drainant avec des gravats d'un voisin également. On a réussi à avoir de la récupération du sable à notre voisin. Finalement, elle est très développement durable de par sa conception déjà. Et puis, je dois te dire que oui, techniquement, bon, ça c'est pour la petite partie jardinière, on va dire, mais du haut de la spirale, on a prévu un substrat très drainant avec des plantes, des aromatiques d'origine méditerranéenne, genre le romarin, le thym citronné, la serpolée, il y en a plein d'autres. Et plus on va descendre, plus on va tourner dans la spirale, et finalement, plus on va aller vers des choses avec un substrat plus composté, plus riche et moins drainant. Finalement, en fait, c'est une technicité incroyable, cette spirale. Venez voir, on peut en parler. Et donc, vers le bas de la spirale, on va aller plus vers la menthe, le persil, vers des choses... qui demande plus de richesse. Ça, c'est pour la petite partie de la spirale qu'on travaille aujourd'hui, qu'on présente. Quoi d'autre ? Oui, il y a mon collègue Patrick, qui est un peu plus bricoleur. Lui, il présente une jardinière en mode do it yourself, avec des palettes, avec le niveau bien ajusté à votre fenêtre, à votre appui de fenêtre. Il est prévu dedans, dans cette jardinière, la bâche, le petit morceau de bâche qui va bien pour pérenniser le bois, le substrat, l'humidité, pour pas que la capillarité soit trop forte, pour que ça soit pérenne. On prévoit également un petit tuyau pour l'aspect surplus du drainage. Une jardinière avec finalement très peu de plastique fait juste ce qu'il faut pour optimiser la chose et puis faire un produit bien fini. Quoi d'autre ? Je reviens sur les aromatiques parce que j'avais oublié, mais on a fait un petit jeu qui d'habitude ça s'appelle un kimgu, là c'est un kimsenteur. On revient sur les aromatiques qu'on a présentées, puis on s'amuse à les faire sentir à côté et puis essayer de retrouver les odeurs correspondant à quelle aromatique qu'on a présentée avant. J'ai prévu des petits rondins de bois où est-ce qu'on marque le nom de la verveine ou bref encore des aromatiques et puis les enfants repassent dessus au feutre et viennent également l'égayer. Donc la dénomination de chaque chose qu'on va planter, mais faite par les enfants sur un support bois, donc quelque chose également d'écolo. On essaye d'aller jusqu'au bout et de faire bien les choses. Voilà. Retrouvez-nous au Chemin Rouge, dans le jardin. N'hésitez pas, on a un petit groupe WhatsApp. Si vous laissez vos coordonnées, par exemple, à l'accueil, moi, je vous mets dans le petit groupe WhatsApp. Vous pouvez venir composter aussi. Je pourrais parler des heures du jardin. Il y a le compostage, il y a un futur potager.
Il y a beaucoup de projets. Hein.
Une foultitude. Donc, vous pouvez laisser vos coordonnées en téléphonant, en passant, par exemple. Et puis, moi, je vous mets dans le petit groupe WhatsApp. Je rassure tout le monde. Je renvoie un message seulement tous les 10 jours en moyenne. Donc, j'y vais piano. Donc, vous n'êtes pas harcelé. Je vais droit à l'essentiel pour partager des petits ateliers sur plein de choses. J'arrête là. À bientôt.
Et pour terminer ce podcast, nous sommes avec Martine. Bonjour, Martine.
Bonjour Rémi.
Alors, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais aujourd'hui sur cet événement ?
Alors, aujourd'hui, ce que je fais comme atelier, je fais un atelier tawashi, donc ce sont des éponges lavables. Je fais un atelier gommage avec du marc de café qu'on a récolté depuis une semaine au centre. Et je fais aussi des bivraps qui servent en fait à remplacer le papier aluminium ou le film alimentaire.
Ok. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ces ateliers, en quoi ça consiste ?
Alors, pour le... premier, c'était les tawashi, donc les éponges lavables. En fait, on a récupéré des chaussettes, mais c'est faisable aussi avec des collants et des t-shirts en coton. À partir de ces tissus qu'on n'utilise plus, donc usagés, on les lave bien évidemment, et après on fabrique en fait nous-mêmes notre propre éponge, parce qu'en fait les éponges industrielles qu'on utilise habituellement sont très sales et très polluantes. Donc là l'idée c'est de pouvoir un peu réutiliser les tissus qu'on a déjà et du coup d'en donner une seconde vie, et donc d'en faire un produit plus durable. Voilà.
Ok. Et comment tu as eu l'idée de réaliser ce projet ?
Alors, c'est des choses que j'ai déjà réalisées, donc ça m'a donné envie de les faire pour aujourd'hui. L'idée, c'était de pouvoir faire des ateliers qui soient accessibles pour les enfants. Par exemple, pour le gommage, on est parti sur de l'huile d'olive avec du marc de café, parce que ça permet aux enfants de pouvoir le faire par eux-mêmes, avec le dosage grâce au gobelet. Et pour les bivraps, c'est pareil, c'est accompagné d'un adulte. C'est des choses qui sont facilement reproduisables à la maison, et autant avec très peu de matériel, et puis qui sont faciles aussi à reproduire. Donc les personnes peuvent repartir avec leur petit tuto et puis elles peuvent tout refaire facilement. Quoi. Voilà.
Et est-ce que tu peux expliquer rapidement l'impact de l'action, puis qu'est-ce que tu cherches à partager avec les gens ?
Alors ce qu'on cherche à partager aujourd'hui avec cet événement, c'est qu'on puisse changer un petit peu les habitudes de nos habitudes quotidiennes, parce qu'on a tendance à beaucoup polluer sans s'en rendre compte, alors qu'il y a beaucoup de gestes simples qu'on peut justement changer. Et donc c'est éduquer les enfants à des nouvelles habitudes, et les parents aussi, surtout parce qu'on a grandi forcément dans une autre génération, et donc c'est montrer toutes ces petites astuces en fait pour qu'on puisse limiter justement notre impact sur la planète. On n'en a qu'une.
Bah super, merci Martine pour ton intervention, et puis c'est avec toi qu'on clôture du coup ce podcast. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast thématique sur le développement durable. On vous dit à bientôt sur la web radio du Chemin Rouge, et on vous tient au courant pour nos prochaines émissions. Voilà, merci à tous.
Merci.
Et merci aussi dédicace à François-Xavier pour la vidéo.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.